pas de par Jupiclas aujourd'hui, puisque nous sommes en semaine de florilège. Et bon, je dois être honnête avec vous, cher auditeur, chère auditrice, j'ai choisi aujourd'hui, parce que Charline, elle m'a dit, tu fais ce que tu veux. Alors bon, eh ben, j'ai choisi une actrice que j'aime beaucoup. Voilà. Je me suis dit, allez, on se replonge dans cette émission de 2016. Vous allez la découvrir par la conférence de rédaction de l'époque.
Salut les amis.
Salut Charline.
Alors aujourd'hui on va parler de cinéma français, film d'André Téchiné, et l'invité c'est Sandrine Kiberlin.
Ah ouais, ouais,
du calme, du calme.
Ah bah quand même, Sandrine Kiberlin.
Ah ouais, ouais. Les sujets.
Alors Sandrine Kiberlin est la femme d'un médecin militaire.
Ah merde, elle a quelqu'un.
Mais non, dans le film.
Ah, oui,
donc je voudrais faire un sujet sur la difficulté d'avoir un compagnon policier, militaire ou pompier.
Ou une compagne.
Oui,
les gars.
Ah et ça doit pas être facile d'être le mari de Julie Lescaut.
Ou de Marie Pervenche.
Donc pour le féminisme, on repassera.
Ah, ça doit pas être facile d'être le compagnon de Charline Gounaké.
Mais non, pas du tout. D'abord, j'ai des goûts très simples.
Oui, bon, tu t'en occupes bien.
Ah, ouais, je fais très bien les lasagnes surgelées, par exemple.
Quoi, nous ?
Ah, ouais, bah ça doit pas être facile tous les jours d'être avec un humoriste.
La meuf d'Alex, elle sait pas ce que ça fait d'être avec un humoriste.
Ma meuf, elle passe pas ses nuits avec un micro de France Inter.
Qu'est-ce qu'il y a, quoi ?
Tu vas au lit avec ton micro ?
Oui, il l'interview après l'acte pour savoir comment elle a trouvé.
Mais non.
Mais si, il traque toutes les arnaques. Y a pas de raison qu'il traque pas celle-là.
Et vous savez pourquoi Alex il aime tant les brèves?
Parce que c'est son surnom.
Au lit, la brève.
Stop, ça va. Alors bon, je note que c'est un sujet qui fait débat, d'accord. Hein, nous ferez le même débat tout à l'heure. Vous êtes contente d'apprendre autant de choses sur vous, Sandrine Kiberlin?
Non, tu dis pas. Hein.
Non, s'il te plaît. Ça, on verra, je vous signale.
Charline, moi j'aime beaucoup les lasagnes surgelées. Ça me comble.
Bonjour la France Inter, vous êtes dans l'émission qui est sans concession avec la qualité de ses invités et pour le coup aujourd'hui ce sont deux pointures dans leur domaine. La deuxième demi-heure, on la passera avec quelqu'un qui m'a donné envie de faire ce métier de comique sur scène, un pape de l'humour et du stand-up, monsieur Michel Boujna, émission de 2014, la toute première saison de Si tu écoutes. J'annule tout, mais tout de suite, nous partons en 2016 avec Sandrine Kiberlin. Je sais pas si je vous ai déjà dit, mais je l'adore.
France Inter, Alex Vizorek.
Par Jupiter.
Sandrine Kiberlin et Marianne.
Oui.
C'est la nouvelle Marianne, en tout cas celle.
Absolument.
Elle est en marinière.
C'est vrai. Celle d'André Téchiné, puisque son dernier film, Quand on a 17 ans, avec vous, Sandrine Kiberlin, et avec deux jeunes acteurs formidables, Kessimothée Klein et Corentin Fila.
Ouais.
Alors, c'est l'histoire de Tom et Damien, qui sont deux adolescents, qui peuvent absolument pas se blairer au point de se battre violemment. On comprend ensuite que c'est parce qu'ils se désirent, mais qu'ils refusent de l'admettre. Tom, par exemple, il est métisse. Adopté, vous êtes la mère de Damien, compréhensive, moderne, avec un mari militaire envoyé au front. Ça se passe dans un village des Pyrénées. D'ailleurs, il y a un adolescent qui est plutôt de la montagne et l'autre de la vallée. Alors, qu'est-ce que ce film et votre personnage racontent de la France d'aujourd'hui? Et est-ce que ça raconte quelque chose de la France d'aujourd'hui? C'est pas forcément une France qu'on a l'habitude de voir au cinéma.
Je dirais oui.
Déjà, on a bon.
Voilà. Merci. Au revoir. Non, oui, ça raconte quelque chose d'aujourd'hui parce que l'adolescence, c'est évidemment aussi l'adolescence, c'est l'adolescence de tous les temps, donc c'est celle qui est actuelle.
Elle est presque prise, donc elle monte le temps, oui.
Oui, et non, mais c'est surtout qu'il la traite de manière assez moderne et actuelle, parce que l'écoute de cette mère et de cet adolescent est particulière et je trouvais très contemporaine. Elle est dans un dialogue, dans une confiance réciproque, dans un respect mutuel, dans un truc je trouve de notre époque. La guerre autour, on n'est pas sans savoir qu'aujourd'hui c'est compliqué aussi pour nous tous et pour tous les pays. Et tout ce qu'on a, et puis la vie une vie qu'on connaît moins, la vie des montagnes, la vie de ces gens-là, la vie qui travaillent les agriculteurs, ceux qui vivent une vie différente de, bah, de la nôtre autour de cette table, après ce que j'ai compris.
Votre personnage.
Votre personnage. Assez intelligent.
Non, non, mais il brosse. Il brosse.
Il brosse les bêtes. Je suis Germano Pratin.
Voilà. Guillaume Meurice, vous brossez les bêtes, mais pas ceux qu'on croit. Sandrine Kiberlin, votre personnage est donc un personnage très positif.
Oui. C'est une optimiste. Oui. C'est une amoureuse de la vie. Elle, c'est marrant. André Téchiné dit souvent que dans les films, il aimerait mettre toujours des fleurs, des baisers et des chansons. Il me disait, des fleurs, on en a, parce qu'elle rentre toujours avec des tulipes, des trucs, elle est toujours solaire. Des baisers, bah, il y en a, puisqu'il y en a même beaucoup, entre mon mari et moi et entre des adolescents. Il manquait des chansons.
On peut y aller en famille, donc.
On peut y aller en famille.
André Téchiné est Miss France, donc, hein, on peut le dire.
Freezing cold in Ainsonite, you so. You're the cold maze, say one. Freezing cold in Ainsonite, you so. All right.
C'était Adriano Celentano sur Francia Inter. Alors, je vais essayer de vous donner le titre. Voilà, c'est le titre le plus difficile à dire pour un animateur radio. Donc, merci à Giubacca de me l'avoir mis dans la programmation musicale. Un petit soleil d'Italie, en tout cas dans la froideur des florilèges d'hiver. Heureusement, on replonge avec Sandrine Kiberlin qui, elle, nous réchauffe les cœurs.
On est
êtes ensemble avec Sandrine Kiberlin. On en profite jusqu'à 18h. On va parler du premier sujet. Eh bien, les attentats et les conflits mondiaux nous conduisent à avoir aussi une pensée pour les familles de ceux qui protègent ou défendent nos libertés. Il y a les militaires.
Non, moi, j'y pense pas du tout. Les... Je m'en tape.
Vous avez compris l'émission, vous.
J'ai compris déjà.
Vous êtes servi.
Les militaires, les pompiers, les policiers. Alors, concernant les policiers, oui, des types qui ne loupent pas une occasion, non, de prendre un apéro, mérite bien une petite déclaration d'amour. Allons-y. Ah bon? Bah si, bien sûr.
Ah bon? J'aime les flics de chez Cazeneuve. J'aime les flics au Bataclan. J'aime les flics quand les coups pleuvent. J'aime les flics au restaurant. J'aime les flics sur les terrasses. J'aime les
Frédéric Fromet qu'on retrouvera bien sûr vendredi.
Quel faillot ce Fromet. Il avait des PV à faire sauter, voilà.
Alors Sandrine Kiberlin, donc on a compris que vous en tapiez des familles de.
Ouais, on fout tout.
Alors par contre j'ai une question qui me taraude, turlupine même depuis ce matin. L'histoire secondaire du film, c'est votre relation avec votre mari dans, ouais, quand on a 17 ans, d'André Deschiné. Il est médecin militaire, envoyé sur le front, et vous avez une relation par Skype avec lui, c'est-à-dire que vous jouez par Skype finalement. Ça crée à un moment, même pendant tout le film, il y a un moment où ça crée une grosse tension dramatique. Je me suis posé cette question, quand on tient le rôle principal de ce personnage qui a son mari au front, est-ce que quand on est dans cette situation, on doit jouer la situation de l'attente et de la crainte de ce qui peut arriver, hors plateau, on réfléchit à ça et on se pose des questions parce qu'on est dans un contexte où François Hollande envoie des soldats au front, au Mali, etc.
Non, je vous avoue que je me suis pas posé de questions. Bon, d'abord parce que je m'en fous, donc ça c'est clair. Non, mais je me suis pas posé de questions parce que je me mets à la place de cette femme que je joue. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe, mais il se passe que je suis Marianne.
Oui.
Et donc elle a à vivre ça. Et donc j'imagine ce que ce serait que de vivre ça.
Oui.
Mais je ne me mets pas à penser à tous ceux qui vivent ça, si vous voulez.
Mm-hmm. Ni à vous interroger sur cette question
de
société.
Non, je suis très flemmarde, pas du tout scolaire. Je ne travaille pas. Je suis dans l'instinct, dans le moment et dans ma Marianne à moi la Marianne d'André Téchiné, qu'on crée comme ça. Mais non, de même que quand je vais ausculter les patients dans le film, je ne réfléchis pas à comment les médecins auscultent les patients. Je le fais mais à ma façon et après on me guide. André me dirige et me dit si ça sonne vrai, si ça ne lui va pas, si quelque chose. Mais évidemment que je me mets à la place de cette femme, donc je me mets à la place d'une femme qui attend son homme qui part au combat. Donc je ne pense pas à toutes celles-là, mais forcément je deviens une femme qui attend son homme au combat. Ouais.
Donc il n'y a pas qu'une forme de flemmardise, c'est aussi une forme d'hyper-concentration et de travail.
Et d'imagination, et de vouloir être dans l'insolite de ce personnage, de ne pas vouloir copier, si vous voulez, ou m'informer pour devenir une des personnes dont je lirais la vie de cette femme qui attend son homme et partir au combat.
Préparer un rôle à l'américaine, comme
non,
ça, en s'immergeant. Et même si c'est un personnage historique, si on vous demande de jouer Marie-Antoinette ou...
Ben, j'ai joué par exemple Simone de Beauvoir et j'ai refusé de lire ou de voir des documents sur elle parce que...
De coucher avec quelqu'un qui ressemble à Jean-Paul Sartre.
Ça, je l'ai fait.
Ah oui,
je l'ai fait. Mais j'avais un intérêt personnel. Mais ça, je le fais toujours. J'ai beaucoup couché avec des mecs qui partaient au combat, mais ça c'est pour un autre. Il fallait quand même que je nourrisse mon personnage, c'est un truc. Voilà, cette forme de travailler avec l'imaginaire, je vous disais. Donc j'ai besoin aussi.
Il y a du boulot quoi, c'est ça. Il faut dire aussi aux jeunes comédiens.
J'ai bossé, j'ai bossé.
On va reparler cinéma et rôle social, parce qu'on est sur France Inter quand même, 17h43. L'insertion par le cinéma, eh bien ça existe. En tout cas, Le Monde rapporte un exemple dans son édition datée d'aujourd'hui. Cet exemple, c'est celui de Philippe et Yasmina Faucon, le réalisateur et la sénatrice de Fatima, qui a récemment reçu un César. Il dirige un atelier d'écriture pour primo-arrivants. Voilà un exemple d'insertion, il en existe d'autres. Oui, n'en déplaise à certains, il en existe d'autres, on en doit même certains à la police de Molenbeek.
Bicon, Métek, Moutouf sont autant de petits sobriquets que d'aucuns usagers utilisent pour désigner nos amis les Maghrébins. Pour la plupart originaires de l'Afrique du Nord, les Maghrébins font maintenant partie intégrée dans le paysage de nos villes urbaines. Apprendre à les approcher et à les connaître est un pas vers plus de convivialisme. Certains Maghrébins se demandent bien souvent la question de savoir pourquoi ils font l'objet de plus de contrôles d'identité que les usagers classiques, si j'ose dire. C'est pourtant simple. Leur sympathique tempérament méditerranéen, empreint de décontraction et de farniente, les amène manifestivement à un comportement souvent distrait. En effet, ils oublient régulièrement leurs papiers à la maison. C'est pourquoi, par souci d'intégration, nous les aidons à s'en souvenir par des petits contrôles de routine.
Et oui, c'était une vidéo de la RTBF, une série qui s'appelait Faux Contact avec Manu Toro et certainement tournée à Molenbeek il y a quelques années, effectivement. Alors, la quinzaine des réalisateurs à Cannes a fait une formidable initiative que moi j'ignorais, je ne sais pas si vous saviez, vous
non, je
Berlin,
pas.
Donc c'est dans Le Monde d'aujourd'hui. Et cette initiative, c'est l'organisation d'un atelier d'écriture. Il y en a un qui est dirigé par Philippe et Yasmina Faucon, donc Fatima, César du meilleur film cette année.
Vachement bien écrit, d'ailleurs.
Voilà, un film que vous avez particulièrement apprécié.
Ouais, beaucoup aimé.
Et donc, ça se passe dans la banlieue de Cannes, Cannes-la-Bocca. Et ça peut donner aux gens qui sont en rupture sociale ou aux primo-arrivants, finalement, un accès au métier du cinéma. Sandrine Kiprelin, est-ce que vous pensez que c'est par ces gestes-là qu'on peut peut-être ouvrir un peu, aérer le cinéma, donner des nouveaux points de vue et en même temps une chance aux gens?
C'est surtout ce que je retiens le plus, c'est la chance aux gens, parce que et puis il y a des gens sans doute formidables partout, mais ça donne une chance de s'exprimer à des gens qui en auront peut-être pas l'occasion, qui en auraient peut-être pas l'occasion autrement. C'est une super initiative, je trouve. En plus avec des gens si doués dans un cadre quand même qui est très mis en lumière, parce que Cannes, quinzaine, c'est quand même quelque chose dont on parlera évidemment. Et puis comme c'est quelque chose de nouveau, je pense qu'ils vont beaucoup axer les choses sur ces gens-là qui ont sans doute.
C'est cohérent aussi quand on est réalisateur d'un film avec une dimension très sociale, de montrer
très
que
cohérent,
dans la vie, on peut aussi. On va au-delà de ses convictions dans le film et à l'écran. Et qu'on
je pense que Philippe Faucon, pour avoir parlé comme ça d'une héroïne, comme il le fait dans son film Fatima, que je vous conseille fortement, pour en avoir parlé comme ça, pour la filmer comme ça et pour l'avoir écrit comme ça, je pense qu'il a une conscience du monde aiguë et que c'est ce qui le conduit aujourd'hui à faire un atelier comme celui-là, que je trouve formidable, ouais.
Voilà, et Philippe Faucon qui avait d'ailleurs réalisé La Désintégration en 2012,
c'est super,
rappelle Le Monde, voilà. C'est trois jeunes qui se radicalisent et préparent un attentat. 55 000 entrées, mais aujourd'hui son film a une nouvelle vie grâce justement à la mise en lumière de Fatima. Et donc voilà, je vous renvoie à cet article du Monde sur cet atelier. Et croisons les doigts pour qu'il y en ait d'autres.
Ouais, absolument.
vous pourriez participer.
Moi, je vais
à
faire un petit
chose.
Atelier.
Oui.
Couture.
Et pourquoi pas de costume?
Je trouve tous ces ateliers. Non, mais j'adorerais, moi, parler de mon métier autrement que avec vous ou avec des histoires de promotion. Ailleurs, et pas, surtout pas ici. Merci.
Une forme de micro-solidarité.
Avec des gens qui ont peut-être pas l'occasion d'approcher des acteurs, qui idéalisent trop ce métier et leur dire que c'est un métier comme un autre, et puis avoir une approche avec eux de ça, comme d'un autre métier ou comme de... Oui, je trouve ça super.
Et nous avons un rôle intense à vous proposer, Sandrine Kiberlin, avec même un ustensile, Guillaume... Regardez comment procède Guillaume Meurice.
En fin d'émission, on propose chaque fois un sketch à l'invité. Et aujourd'hui, nous avons un accessoire. Nous avons le gueulophone, car le sketch d'aujourd'hui se déroule sur le tarmac en Égypte, ce matin, quand le détournement d'avion... Donc, un homme avait détourné l'avion pour retrouver son ex. Le chef de la police Cypriote, c'est Guillaume Meurice. Vous êtes la femme et je suis votre ex. C'est moi qui écris, je fais ce que je veux. On est parti sur le tarmac à Chypre.
Ici la police chypriote. Ne faites rien que vous pourriez regretter. Quelles sont vos motivations?
J'ai un message à faire passer.
Vous réclamez le retrait des troupes en Syrie?
Non, pas du tout.
En Palestine?
Non, je sais même pas où c'est.
Vous faites ça pour les 72 vierges, c'est ça?
Pas du tout, c'est pour mon ex.
Elle est vierge?
Je crois... Bah non.
Mais c'est qui?
C'est Sandrine Kiberlin, l'actrice.
C'est pas vrai, c'est pas moi.
Celle qui a un air de Nathalie Kosciusko-Morizet?
Non, c'est pas moi, justement. Non, c'est pas moi.
Elle dit que c'est pas elle.
Je suis là, je suis prête à collaborer.
Merci, Madame Kiberlin, d'être venue si rapidement.
Mais j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Comment va-t-il?
Alors attendez, parlez-lui là-dedans. Regardez, vous faites comme ça.
Voilà. Ok, passez-le.
Reculez un peu, Sandrine, parce que...
Robert, tu m'entends? C'est moi. Non.
Sandrine, c'est toi?
Oui, c'est moi, la sosie de Nat. Oui, c'est moi, qu'est-ce que tu veux?
Je t'apporte une lettre.
Une lettre?
Oui, 4 pages.
Mais t'es complètement con.
Mais pas plus que quand tu m'as choisi.
Mais ça aurait été plus simple de m'envoyer un texto.
J'ai perdu ton numéro.
Mais un mail alors.
Je l'ai fait, mais tu m'as jamais répondu, j'ai dû tomber dans les spams.
Sur Facebook?
Mais on n'est plus amis, tu m'as bloqué. Le jour où j'ai changé ma situation amoureuse, c'est compliqué. Mais
attendez, pourquoi vous avez fait ça?
En soi, ce qui m'a surtout énervé, c'est qu'il auto-like son statut.
Ah ouais, d'accord. Non, mais il est complètement con, en fait. D'accord.
Et un tweet, pas possible non plus.
C'est ce que j'avais à te dire, c'est plus que 140 caractères.
Je suis en train de perdre toute ma crédibilité.
Vous êtes en train de choper des nouveaux rôles.
Je me lance un peu. Du coup, il te restait que le détournement d'avion.
Voilà, c'est ce cas.
Eh ben, je suis là. Tu me la lis, la lettre d'amour ?
Quelle lettre d'amour ?
Mais enfin, on me dit que tu avais détourné l'avion pour me remettre une lettre de 4 pages.
Ah oui, elle fait 4 pages, mais c'est pas une lettre d'amour.
C'est une lettre de quoi ?
C'est une facture.
Une facture ?
Facture de téléphone, 128,64 euros.
Non, mais c'est confirmé, il est complètement con.
Et voilà pour ce moment de 2016, passé en compagnie de Sandrine Kiberlin. Plongeons-nous dans une autre émission, encore plus ancienne, 2014, avec monsieur Michel Boujna. Et on commence tout de suite par la chronique de Guillaume Meurice, qui s'était rendu, comme quoi ses passions ne changent pas énormément, à une manif de policiers.
Eh bien, je me suis rendu pas plus tard que tout à l'heure à la manifestation des policiers en colère, place de la Bastille à Paris. Et qui dit manifestation et police dit question.
Vous êtes combien selon la police ?
Écoutez, ça se chiffre à la fin, hein. Mais je rappelle que la dernière fois, nous étions un peu moins de 5000.
Selon la police ?
Oh non, selon les vrais chiffres.
Oui, mais alors vous êtes de la police, est-ce qu'on peut vous faire confiance sur les chiffres ?
Bah, écoutez, si vous voulez, on se retrouve ce soir et puis on comptera, mais je pense que vous pouvez nous faire confiance et je pense qu'on sera le double aujourd'hui, largement.
Et bien sûr, hein, bien sûr, donc largement le double, hein, soit plus de 10 000 selon lui. Bon, alors on a les chiffres, à peine plus de 8 000 selon les organisateurs, mais pas selon la préfecture de police parce qu'elle n'a pas voulu donner de chiffres, figurez-vous. C'est dommage, on aurait au moins aimé savoir si la police contredisait la police. Bon, je vais quand même pas trop me moquer parce que... Bon, moi j'ai des PV à faire sauter, vous pouvez faire quelque chose ou pas ?
Ouais, alors là, c'est compliqué.
Et si vous me les faites sauter, je dis du bien de vous dans les médias.
Non, maintenant c'est informatisé. Ben, ça aussi, voilà, une des réformes que les policiers n'ont pas particulièrement aimé, ça s'appelle le PVE. On vous verbalise, vous ne savez même pas au courant que vous avez été verbalisé.
Ne changez pas de sujet, j'ai des PV à faire sauter.
Ouais, mais moi je ne peux plus les faire sauter, c'est informatisé, donc vous voyez.
Sinon vous auriez accepté ?
Non, je ne sais pas, ouais, pourquoi pas, on verra.
Ah, la police française est donc facilement corruptible. Ça m'arrange pour mes PV. Alors bon, du coup, je suis obligé d'être un peu cool avec eux. Je vais donc rappeler leurs principales revendications. Ils veulent une plus grande liberté d'action et surtout du matériel neuf. Selon eux, tout est désuet. Les voitures sont vieilles, les armes pas adaptées. Et même, on va être pragmatique.
On va être pragmatique. Il n'y a pas de papier cul, c'est malheureux, mais il n'y a pas de papier WC dans les commissariats. Mais
donc vous êtes sans papier aussi ?
On est sans papier aussi.
Et pourtant, vous traquez les sans-papiers.
Et pourtant, on ne traque pas les sans-papiers, mais on est là pour les contrôler si toutefois c'est des sans-papiers.
Et oui, des sans-papiers qui contrôlent des sans-papiers, c'est quand même un comble. Mais ils ne manifestaient pas seulement pour eux, m'ont-ils dit.
Mais on manifeste aussi pour les citoyens.
Oui, mais là, vous allez vous retrouver face au CRS. Vous n'avez pas peur qu'ils soient un peu cons ?
Mais nous, on se retrouve face à qui vous voulez, dès l'instant où nous sommes des gens responsables. Et le droit de manifester, il est valable pour tout le monde.
Vous n'avez pas peur des violences policières ?
Ce serait fort de café.
Ce serait fort de café, dites-moi. Une expression non utilisée depuis 1923. Tout est désuet à la police, hein, même les expressions. D'ailleurs, est-ce que pour la manif, ils ont sorti les vieux slogans ?
Qu'est-ce que vous avez comme slogan ? Est-ce que vous avez par exemple CRS, SS ?
On n'a pas ce genre de slogan parce que les CRS sont loin d'être comme on peut les citer. Les CRS sont des gens professionnels et c'est des collègues avant tout.
Collègues professionnels et même plus.
Ouais, non, mais les CRS sont très gentils. Hein.
Ce sont les CRS. Hein.
Les CRS sont, pardon ?
Les CRS sont gentils, pourquoi vous ?
Ah oui, j'avais bien compris.
Ah, bon, voilà.
Les CRS sont gentils ?
Bien sûr.
Est-ce que vous dites ça parce que c'est la journée de la gentillesse ?
Voilà, tout à fait aussi, oui, pareil, ouais.
Ouais, mais là, si vous les avez en face de vous pendant que vous manifestez, vous allez comprendre qu'ils sont pas très gentils, hein.
Mais non, négatif, ils sont là pour faire le maintien de l'ordre. À partir du moment où il n'y a pas de débordement, je vois pas pourquoi ça se passerait mal.
Bon, est-ce que vous pensez que la manifestation, elle est surveillée par des flics en civil ?
Affirmatif, mais ça nous dérange absolument pas.
Mais du coup, vous les reconnaissez ?
On n'est pas là pour regarder ce que les gens sont là pour nous surveiller, on n'est pas là pour ça.
Alors, on n'est pas là pour regarder ce que les gens sont là pour nous surveiller, hein, d'accord ? On est là pour qu'on cause correctement. Reçu ? Affirmatif. Et puis après ?
Puis après, il faut voir ce qu'on entend par violence policière. Quand vous entendez 99,9% des cas, Je suis désolé, mais mes collègues ne font que répondre à une première agression.
Ça, c'est les chiffres de la police, 99,9%.
Non, c'est une vérité, c'est tout. Après, on peut, ça, c'est non contestable. Je sais bien que les médias aiment parler de bavure.
Ah non, pas le coup de c'est de la faute des médias. Non, il me la joue comme mon ami de l'UMP du Val-de-Marne, là, que j'ai eu au téléphone hier. Bon, alors, puisque c'est comme ça, je laisse à mon ami en question le mot de la fin.
Non, les médias, en toute franchise, moi, personnellement, hein. D'accord ? Poum, tac, terminé.
Poum, tac, terminé, Michel Bougelin. C'est la conclusion du montage.
Dans mon spectacle, ça me fait penser à une phrase de mon spectacle où je joue le Cid. Vous savez, le Cid de Molière.
Attention, hein,
c'était un test. C'était un test pour voir votre culture. C'est parce que j'étais très inquiet. Et je dis, nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous vîmes 10 000, 3 000 selon la préfecture.
Je regarde dehors, je vois des montagnes nues dans mon village du nord, la fièvre noire. J'aimerais te mordre plus tôt. Je sur Labrador, les murs me font perdre la vue et mon visage se tord, la fièvre noire. J'aimerais te mordre plus tôt. Close, j'ai le vague à l'âme.
C'était Laura Cahen sur France Inter avec la fièvre noire. Replongeons-nous donc dans cette émission pour les Florilèges, novembre 2014, le 13 novembre exactement, journée mondiale de la gentillesse, et nous recevions un comique extrêmement gentil, Michel Bougenat, le directeur du festival de Ramatuelle, qui a une programmation exceptionnelle cet été, mais je peux pas trop vous en parler parce qu'il est un petit peu interdit sur cette antenne de faire sa propre promo. On se lance donc tout de suite dans cette émission avec Michel Bougenat.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanhoenacker.
Voilà des manières.
Alex Vizorek.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Vous êtes le vrai quand même, rassurez-moi. Qu'est-ce qui nous le prouve d'ailleurs que vous êtes le
je
vrai ?
Je sais pas si je suis le vrai. Franchement, je sais pas. Je sais plus qui je suis. Je vous en supplie, aidez-moi.
On va vous aider. Déjà, on va vous rappeler ce que vous avez fait ce matin. Vous étiez dans la matinale de Patrick Cohen, dans le 7-9. Vous aviez une carte blanche. Et quand on a écouté la carte blanche, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'il a dit ? On va réécouter.
J'aurais pu vous parler de cette époque où on demande aux artistes, parce qu'ils font la promotion de leur spectacle, de parler de tout, de donner un avis sur tout, même sur des sujets où ils ne sont pas compétents. Ah, si les artistes avaient le pouvoir de changer le monde, on rigolerait un peu plus.
Alors, est-ce que on va est-ce qu'on va quand même parler un peu de politique avec vous? On a prévu de parler de Philae aussi et de la journée de la gentillesse, mais on peut refaire le monde aussi avec, si vous voulez.
Mais vous pouvez parler de tout ce que vous voulez et moi je répondrai comme je peux.
Mais bien sûr,
qu'on
bah
est encore
aussi
moins compétent que vous, et donc bah j'espère que ça peut vous rassurer.
Mais ça j'avais déjà remarqué en arrivant.
Et alors les gens qui nous écoutent,
on n'en parle même pas. Michel Bougenat, on peut vous retrouver sur scène dans un nouveau spectacle qui s'appelle Ma vie rêvée, où plutôt que de faire un best-of, vous avez préféré réinventer votre vie. Est-ce que, je sais notamment que vous rêvez de mer et de grands horizons et de traverser de l'Atlantique, est-ce qu'il en est question ou pas? C'est quelle vie rêver?
Non, ça j'en parle pas dans le spectacle, j'en parlais comme ça avant de commencer l'émission, mais c'est vrai que je préfère rêver ma vie, et je pense que c'est très important de rêver sa vie, c'est comme ça qu'on la construit, c'est comme ça qu'on va au bout de soi, c'est comme ça qu'on découvre des choses qu'on soupçonnait pas, et rêver sa vie
C'est un luxe.
C'est tellement bien. Non, c'est pas un luxe.
Non,
c'est pas. Non, tout
mais
le
de
monde
pouvoir le faire sur scène devant les gens, ça c'est.
Ah oui,
différent.
Ça oui. Je sais pas pourquoi j'ai cette chance ou cette malchance d'ailleurs, parce que j'ai pas choisi ce métier.
Mais ça peut être un handicap aussi. Il y avait une phrase de Stendhal qui, dans son journal intime, où il se pose la question à lui-même, où il dit: préfères-tu rêver ta vie plutôt que de la vivre?
Moi, je pense que il faut rêver sa vie dans la mesure où ça emmène notre vie quelque part. Et le monde serait bien différent si les rêveurs n'existaient pas. Vous savez, on dit souvent « Ah, regarde-moi, cet enfant, c'est un rêveur. » Ou alors « Arrête de rêver. » Ou « Arrête-moi. » C'est des conneries. Les gens qui rêvent, on devrait leur donner des médailles. C'est comme ça que le monde change. C'est parce qu'il y a des gens qui ont rêvé. Et c'est ça qui fait avancer. Les chercheurs, ils sont dans leur laboratoire et tout d'un coup, le type dit « Tiens, si je faisais ça avec ça, et si je changeais la dose de ça ?» Parce qu'ils rêvent tout le temps de trouver.
Mais c'est pas la politique alors qui change le monde, c'est les rêveurs.
Mais les rêveurs amènent la politique, c'est la conséquence parfois quand c'est bien.
Il y en a qui rêvent d'inverser la courbe du chômage. Ouais. Ça peut être
oui,
un rêve.
Oui, ça c'est vrai. Mais les rêveurs et les grands philosophes ont permis à la politique de se donner du sens parfois, même si aujourd'hui parfois elle ne sait plus où est le sens.
Et par exemple, l'un des aspects de votre spectacle, dans Ma vie rêvée, vous rêviez de quoi par exemple et que vous partagez avec le public comme rêve?
Par exemple, je raconte mes 68. J'avais 15 ans, mais 68, et justement, tous les rêves qu'on avait, et on rêvait de changer le monde, et j'ai dit, c'est le monde qui nous a changé. Ouais. C'est pas, mais je rappelle aussi.
Oui, parce que là, c'est un mai 68 à l'envers, un petit peu, quand même.
En ce moment.
Qu'on vit en ce moment.
C'est oui. Très optimiste comme spectacle, Michel Bougenat.
Oui, c'est lucide.
Ah oui.
Mais c'est très.
C'est pire.
Mais c'est très optimiste. On peut être lucide et optimiste. On peut avoir confiance dans la nature humaine, et en même temps, savoir de quoi elle est capable. Mais elle est capable aussi de choses merveilleuses, la nature humaine. On est dans une période où on voit tout sombre, parce que ça va pas très bien. Mais je vous rappelle juste un détail. On vit dans un pays qui est incroyable, où on a une liberté incroyable. Allez vous balader un peu, sortez de France Inter, prenez un avion ou un train ou une bicyclette, allez voyager dans le monde entier. Il y a 20 démocraties dans le monde. Il n'y en a pas plus, il y en a 20. Bon. On vit dans un pays incroyable. Alors c'est sûr que c'est difficile, mais le monde dans lequel on vit aujourd'hui, le pays dans lequel on vit aujourd'hui est magnifique. Même si c'est la merde, est magnifique, parce que quand je compare.
Ah, oui. Toujours, hein, vous voyez, dès que vous êtes optimiste un petit peu, bam!
Mais oui, non, mais parce que. Non,
mais parce qu'il est lucide aussi, il est lucide.
Mais oui, mais parce que ça serait insupportable de dire, quand je sais qu'il y a 7 ou 8 millions de gens qui vivent avec moins de 700 euros par mois, ça serait insupportable de dire, ah, je vis dans un pays magnifique. Non, mais il y a des gens qui vivent avec 100 euros par mois dans des dictatures. Donc,
Et donc, il y a une partie du rêve qui est réveillée, alors, dans Ma vie rêvée. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h et en compagnie de Michel Bougenat, nous mettons l'actualité dans la prise. Premier sujet, et pourquoi pas un gouvernement d'union nationale, dans le fond, parce que ça semble impossible en France, et pourtant, il suffirait que les politiciens de gauche tendent la main aux politiciens de droite.
Si tous les gars du monde décidaient d'être et partageaient un beau matin leurs espoirs et leurs chagrins.
Mais oui, si nous avions les compagnons de la chanson au gouvernement, je ne sais pas ce que ça donnerait.
Mais un beau message. Je suis de plus en plus inquiet de cette émission.
C'est vrai. Alors regardez,
c'est le moment où vous avez un avis important à donner, Michel. On change le monde. Hein, ici,
vous avez en face de vous la une du Point cette semaine, l'hebdomadaire Le Point, qui titre « Entendez-vous ? Si la politique du gouvernement socialiste est finalement jugée si proche d'une politique de droite, eh bien après tout, pourquoi ne pas gouverner ensemble ?» Ça vous semble utopique, Michel ? Michel Boujna ou c'est une bonne idée? Parce que non, là, on est tellement à couteau tiré.
Moi, je suis pour la démocratie grecque. Les mecs, ils sont élus une fois et c'est terminé. Ils ont le droit d'être élus une deuxième fois, mais après, et c'est terminé pour toute leur vie. Moi, je suis pour que la politique...
Oui, mais c'est pas au suffrage universel, c'est par le Sénat, c'est par les sénateurs.
Oui, c'est par la boulée. Ouais, ils étaient 6000 à voter quand même, hein.
Oui, mais c'est pas le suffrage universel, c'est pas le vote
oui,
direct
c'est vrai.
Du peuple.
Alors, on
c'est
est
vrai.
En plein débat sur la politique.
Vous êtes bien sur France Culture.
La politique. Je suis grec.
Non, mais, non, ce que je voulais dire juste, c'est que j'aimerais.
Mais laissez pas madame, invité,
madame, excusez-moi, mais je voulais juste dire que, moi, ce que je crois, si tu veux, madame, c'est, juste que je pense que la politique, ça devait être juste au service de la nation. Pas au service de la personne. C'est-à-dire que même s'ils s'unissent tous, comme ils sont obsédés par leur propre carrière, et d'ailleurs les journalistes aussi sont obsédés par leur propre carrière à eux.
Et parfois ça va de pair.
Ouais,
et
on en connaît, on en connaît.
Ça va de pair, mes mères. j'essaie de me mettre au niveau de l'émission, hein. Mais j'ai du mal.
Vous ne faites que le relever, là, faites attention.
Dit-il en regardant Clara.
Non, pas du tout. Mais, non, simplement que, bon, merde, que les types, ils arrivent à être au service de la nation, que voilà, c'est tout, que c'est un service public, qu'il y en a marre que nous, on transpire quand on serre la main d'un homme politique, parce que genre, on a un ministre en face de nous, on fait monsieur le ministre. Moi, je vois bien au reportage dans les télés, quand il y a un ministre qui arrive dans une radio, dans une télé, il y a 15 mecs autour, le patron de la radio, machin, bonjour monsieur, bonjour madame. C'est notre employé.
Mais attendez, c'est là, nous. Vous êtes là parmi nous, il y a la patronne de la radio qui est quand même en
c'est
régie.
Vrai,
hein,
donc, alors qu'elle ne vient pas pour tous les ministres.
Bonjour
madame. Ils sont méchants avec moi. Hein. Après, je vous parle.
Mais alors, Michel Boujna, vous voulez aussi parler d'une forme de renouvellement de la classe politique,
oui,
si
bien
le
sûr.
Mandat s'arrête à un
moment. Renouvellement de la fonction, du fonctionnement.
Vous n'êtes pas de politicien professionnel, c'est ce que vous voulez
dire. Moi, je rêve de ça. Je rêve d'hommes et de femmes qui, pendant un certain temps de leur vie, décident d'essayer d'être au service de la nation, pas au service de leurs propres ambitions. Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument.
Alors,
madame,
oui.
Elle doit connaître cette phrase.
Au service de la nation, mais pas du bénévolat quand même.
Non, mais
c'est
payé.
L'idée qu'on est élu une fois. Donc après, c'est plus finalement un plan de carrière.
Voilà, il y a plus. Je vais faire ça parce que je vais être réélu. Ou qu'est-ce que je dois aujourd'hui? Bordel de merde. On entend des analystes politiques qui disent il est dans une séquence, c'est le grand mot. Il est dans une séquence où il pense que en 2017, s'il fait ça maintenant, l'autre il va se comporter comme ça et comme ça l'autre il pourra se représenter, mais l'autre il pourra pas gagner parce qu'il aura fait ça.
Oui, mais
j'en ai marre.
L'argument qui va vous être opposé, c'est justement ils disent qu'ils font ça pour se faire réélire, donc ils ont plutôt intérêt à faire le bien. À œuvrer pour le bien commun, c'est pour
mais
ça.
Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, leur stratégie, elle est très personnelle. Elle est très structurée sur presque du marketing. C'est même plus de l'image,
enfin,
c'est de l'apparence.
Il n'y a plus de prise de risque parce que souvent, il y a la peur implicite de si je tente telle réforme ou je mets en route telle loi, je ne vais pas être réélu.
Voilà, si de toutes les façons, il n'était pas réélu, alors il se battrait autrement.
Ou alors il prendrait le pognon et il s'en foutrait complètement.
Mais
alors,
c'est les cas, mais possible. Voyons aussi. Pas tout en noir. Il y a des hommes politiques.
Rêvez votre vie, Maurice.
Non, mais il y a des hommes et des femmes politiques dans ce pays qui sont dignes. Il y en a. C'est pas tous des pourris, c'est pas vrai.
Sous les pavés, l'actualité avec Michel Boujna. Tout de suite, le sujet 2. Philae a bien embrassé la comète Tchouri hier, mais l'atchourissage n'a pas été parfait. On apprend que le robot a atterri deux fois, qu'il s'est posé sur une pente raide et qu'il n'a pas sorti tous ses harpons. Alors toutefois, hier sur France Inter, vous avez pu vibrer au moment précis de l'atterrissage. C'était peu après 17h. Et on retrouve Sophie Becherel depuis le centre de l'Agence spatiale européenne pour prendre des nouvelles de
Sophie,
Philae.
Sophie, vous m'entendez? Vous êtes où, oui, Sophie, là? Par rapport à la comète, vous êtes où?
À 450 millions de kilomètres.
Alors, comment ça se passe chez vous? Que ça voyez-vous à travers la fenêtre, Sophie?
Et la comète éclairée, elle est formidable.
Merci, Sophie, on vous recontacte très vite. Au revoir.
Je pense que vous avez du travail pour vous retrouver.
Où est la queue de la comète?
Écrivez-nous
sa queue.
D'information à 18h. Merci, Sophie, en direct de Darmstadt.
Pouvez-vous décaloter la comète d'où vous êtes?
Oui, Michel Boujna, c'était donc Laurent Baffy qui était avec nous et c'était un grand moment d'histoire scientifique et il était là et il l'a commenté.
Et nous l'a éclaté en direct.
Et on a eu un petit peu peur, on s'est dit mais qu'est-ce qui se serait serait passé si ça s'est arrivé en 1969 quand Neil Armstrong est arrivé sur la Lune. Neil, tu m'entends? Ouais, qu'est-ce que tu vois, Neil? Tu la vois, ma lune? Parce que moi, d'ici, je vois bien ta lune de ta sœur, hein. Ouais, Neil, ouais. C'est Buzz Aldrin derrière? Ouais, ouais. Vous vous êtes enfilé, hein, dans la capsule. Ouais, ouais, ouais. Un petit pas pour l'homme, Neil? Ouais, ouais, c'est ça. Un petit coup, surtout. Ouais, ouais. Allez, on te rappelle, hein, tu reviens quand tu veux. Alors, évidemment, on a eu la chance que ça ne soit pas passé comme ça. On excuse Laurent Baffy parce qu'on a bien rigolé. Mais voilà, on voulait aussi dire à tous les fans de science que nous cautionnions cet magnifique événement.
Mais oui, évidemment, et c'est pour ça qu'on en parle.
Vous savez que quand Buzz Aldrin est revenu à la capsule après avoir marché sur la Lune, il a frappé à la porte et l'autre il a fait qui est-ce?
Il y en avait un troisième dedans.
Mais oui. Sachez qu'on a même pu enregistrer la chanson de Rosetta. Rosetta, c'est la sonde. Oui, parce qu'apparemment, il y a un champ magnétique qui oscille à basse fréquence autour de la comète. Alors, on a récupéré le son. Écoutez. Non, ça, c'est le rire de Clara Dupont-Mono. Attention.
Vous êtes sûr que c'est la bonne sonde?
Mais oui.
Ça, mais oui. C'est Alex qui
c'est le champ magnétique qui aussi à très basse fréquence. Il a été extrêmement amplifié et donc ça c'est le champ.
Ça ressemble à un pigeon qui s'énerve.
500 millions de kilomètres dans l'espace.
Regardez l'émotion sur le visage de Michel Mougenet.
Je me sens ému. Et oui, mais... c'est le champ de Rosetta qui est disponible sur beaucoup de sites d'infos. Oui, bah c'est le tube de la journée, je vous signale.
C'est le tube de la journée. Pour la génération précédente, Armstrong sur la Lune, c'était un truc que tout le monde suivait, tout ça, c'était passionnant.
C'était incroyable. Moi, je me souviens très bien du jour où ça s'est passé.
C'était le jour de la victoire d'Eddy Merckx autour de France.
J'étais dans le sud de la France avec mes parents en vacances. On était tous autour d'une petite télé.
Il n'y avait pas Laurent Baffy.
Non, Laurent n'était pas né. D'ailleurs, je me demande s'il est né, d'ailleurs. En tout cas, il n'est pas terminé, ça c'est sûr.
Allez, nous sommes en compagnie de Michel Bougenaille autour de cette table. Il y a aussi Clara Dupont-Mono qui relie chaque jour la littérature à l'actualité, Michel. Une funambule de l'actualité.
Merci, Charline. Et effectivement, l'actualité, on vient d'en parler, c'est la mission Rosetta, donc qui nous révélera peut-être l'origine de la vie sur Terre. Il y a quand même 4,5 milliards d'années. Ça n'est pas rien. Et alors, il y a un moment où je me suis quand même posé la question, c'est pourquoi cette histoire nous emballe, in fine? Parce que quand même, elle nous prend quand même au ventre, elle nous fait tous vibrer. Et bien parce qu'en fait, l'homme, il est en train de faire quelque chose qu'il fait depuis l'aube de l'humanité, c'est qu'il cherche des traces. Et il n'y a rien qui le fasse plus vibrer que cette quête de traces. Quand on y réfléchit, l'homme préhistorique, il suivait les traces d'autres populations. Celui du Moyen-Âge, il a marché dans les pas de l'Antiquité. Marco Polo, Christophe Colomb, Vasco de Gama ont rapporté les traces d'autres civilisations. Et celui de 2014, qui a tout exploré de la Terre, eh bien maintenant, il sonde le monde du haut, qui a peut-être sans doute précédé, évidemment, le monde d'en bas. Et donc, cette quête de traces, elle est inhérente à l'espèce humaine. Et donc à l'espèce littéraire. Et on lui doit même à cette quête des pages sublimes. Et je me suis replongée du coup dans une nouvelle de Gabriel García Márquez que j'aime beaucoup.
Le poète suédois.
Si ça va.
Oui, mais pour origines bigarrées. Non, c'est pour montrer que j'ai un peu de culture.
Cette nouvelle s'appelle La mer du temps perdu. Et dans cette nouvelle, il y a deux hommes qui font la plongée sous-marine. Et je vous cite. Ils nagèrent d'abord en ligne droite, puis en descendant très profond jusqu'à ces lieux où les choses n'étaient plus visibles que par leur propre clarté. Ils passèrent devant un village englouti avec des hommes et des femmes à cheval qui tournaient autour du kiosque à musique. Le jour était splendide et il y avait des coulées de fleurs vives sur la terrasse. C'est un dimanche qui s'est noyé vers 11h du matin, dit Monsieur Herbert. C'est un dimanche qui s'est noyé vers 11h du matin. Est-ce que c'est pas magnifique ou est-ce que je suis la seule à avoir le cœur complètement serré? C'est magnifique. L'idée du monde englouti, cette idée, elle revient tout le temps en littérature. C'est l'idée de l'élément liquide qui a vaincu l'élément solide. On a Jules Verne, on a Ballard, on a évidemment le mythe de l'Atlantide, qui est un mythe de l'île grecque qui a été recouverte par les eaux. Mais le monde perdu, il se cache aussi sous d'autres matériaux. Et c'est là où intervient un livre qui est sorti récemment et qui est magnifique et qui s'appelle Atlas des cités perdues, signé Aude de Tocqueville, paru chez Artaud. C'est un catalogue
déjà un joli patronyme.
Aude de Tocqueville, ah ça oui, ça oui. Et c'est un catalogue extraordinaire des lieux dont on n'a que les vestiges. Donc les lieux perdus, on peut les chercher où? On peut les chercher sous la cendre, c'est Pompéi ou c'est Hiroshima. On les cherche en l'air, ce sont les jardins suspendus de Babylone, tout comme c'est la comète Tchouri. Dans le sable, comme la cité de Bam en Iran, qui avait, dit-on, 67 tours uniquement construites en tronc de palmiers. Et puis, sous la végétation aussi, il faut aller chercher, sous la végétation qui a repris ses droits. Aude de Tocqueville décrit la ville de Pripyat, à 3 km de Tchernobyl, évacuée en catastrophe le 27 avril 1986, avec une consigne donnée aux habitants. N'emportez rien ou vous reviendrez dans 3 jours. personne n'est revenu. On a tous oublié la violence que ça a dû être. Personne n'est jamais revenu. Et la cité, aujourd'hui, eh ben, elle est intacte, en fait. Elle a toujours ses supermarchés, ses hôpitaux, ses appartements meublés. Il y a des parcs. Sauf qu'elle est remplie d'animaux, que la végétation a intégralement repris ses droits, qu'elle a donc recouvert les parcs, les façades, fissuré le bitume, recouvert les tuyaux. Et c'est en fait la revanche de la nature après l'apocalypse technologique. D'ailleurs, c'est pas un hasard si Pripyat, cette ville, est le décor de nombreux jeux vidéo.
C'est un monde englouti en surface, en quelque
Exactement,
sorte.
Avec cette idée qu'en plus, comme il y a eu la catastrophe nucléaire, c'est une sorte de revanche de la nature. Donc, vous le voyez, le monde disparu, il crée une histoire qui, elle, ne disparaît pas. Et pour cause, c'est la nôtre. Ce sont nos traces, ce sont nos vestiges. Et d'ailleurs, ce qui nous émeut dans la mission Rosetta, c'est moins la prouesse technique que de recueillir des informations sur d'où on vient. En attendant, lisez l'Atlas des cités perdues de Haute de Tocqueville, paru chez Artaud.
Merci Clara Dupont-Monod.
Et si jamais vous faites du mal à cette femme, je vous tue.
Oh ben non, on l'adore, c'est pour ça qu'elle est dans l'émission.
Parce que c'est tellement joli, c'est tellement beau, et c'est tellement comme une vraie histoire, ce qu'elle vient de nous raconter. Et c'est, ce qui est incroyable, c'est que c'est vrai. Et c'est
on voudrait quand même vérifier un petit peu, ouais, hein, Clara, parce qu'on voudrait vos sources quand même.
Gabriel Garcia Marquez et un atlas des cités perdues.
Non, c'est vraiment beau.
Alors, on va prendre le dernier virage alors du dernier sujet de cette émission. C'est la journée mondiale de la gentillesse. Ils se sont mis à plusieurs pour trouver cette idée, et bien sûr, à l'initiative de plusieurs organismes internationaux. Alors, la gentillesse finira-t-elle par triompher ?
Je m'appelle Nathalie, je suis une gentille et je suis poursuivie par un méchant.
Un méchant ?
Mais pourquoi me veut-il du mal ?
Parce que c'est un méchant.
Mais pourquoi moi ?
Parce que t'es une gentille.
Voilà la journée de la gentillesse avec un module préparé par notre réalisateur Benjamin Riquet qui s'amuse bien pendant la journée. Hein. Est-ce que c'est vraiment un travail ? Je ne sais pas.
D'ailleurs,
il est bouche bée.
Il n'est pas payé d'ailleurs.
La parodie de Bioman par les Inconnus, la musique du film de Jean-Yann. Hein. Tout le monde, il est beau, il est gentil. Est-ce que vous attendez quelque chose d'une journée de la gentillesse, Michel Bougenin ?
Non, pas d'une journée, d'un siècle de la gentillesse, d'une éternité de la gentillesse. Moi, souvent on me dit que je suis trop gentil. Alors.
Ah oui ?
Ah oui.
Vous le prenez mal ?
Non, pas du tout, je m'en fous, moi je suis comme je suis gentil.
Mais ça veut dire qu'on peut réussir dans le showbiz en étant gentil ?
Je me sens pas vraiment dans le showbiz, moi je viens du théâtre, donc mais je suis arrivé dans le showbiz parce que je me suis mis à jouer tout seul et que beaucoup de portes dans le théâtre se sont fermées et que c'est le music hall qui m'a ouvert les bras, donc je joue là où je peux jouer. Mais sinon, oui, bien sûr, je pense que la gentillesse n'est pas du tout un handicap. Je pense même que la méchanceté n'est pas forcément un avantage parce que, en général, ça se retourne assez contre les gens. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué. Prenez Truffaut, par exemple. Oui. Il n'était jamais méchant.
Non, mais c'est un immense artiste. Le marquis de Sade disait que les personnes cruelles étaient les plus authentiques.
C'est vrai ?
Oui.
En tout cas, Sacha Guitry était méchant.
C'est pas parce que c'est le marquis de Sade qui a dit ça que c'était vrai. Je vais vous dire franchement. Vous voulez que je vous dise ce que je pense ?
Vous êtes méchant là. Vous êtes méchant, Michel.
Il a eu chez sa mère, le marquis.
Non, c'est la journée de la gentillesse.
Parce que c'est la journée de la gentillesse.
Je m'en fous du marquis de Sade.
Non, on doit être gentil.
Mais non, on sort des citations. Genre, sous prétexte de citation, le mec il a raison. Non, il a dit une connerie, le marquis.
Par exemple, dans aujourd'hui, Le Parisien aujourd'hui en France, c'est l'occasion d'une pleine page en page société où on apprend quand même que la gentillesse est un pouvoir, oui, un pouvoir qui ne soumet personne. C'est joli quand même.
C'est faux.
C'est faux ? Ah oui, vous trouvez ?
Oui, parce que quand vous pouvez être très très gentil et ça peut être très très manipulateur et arriver par la gentillesse à obtenir plein de choses.
Ça c'est l'hypocrisie.
Ça serait
alors,
de faire. Et pourquoi on ne montrait pas là, puisqu'on est tous les
chefs suchotes,
cinq.
C'est discrètement. Ouais.
Ouais. Puisque personne ne nous entend, ni la direction de la radio là, de France Inter.
Personne
ne ferait
pas
aussi. Après, la journée de la gentillesse, c'est une journée du sexe. On fait des journées de tout.
Vous connaissez André Manoukian, non ? Vous connaissez André Manoukian ?
Journée du cul, vous voyez ?
Mais pourquoi seulement une journée ? C'est ça la question.
Je vois dans vos yeux une grande frustration.
Ah oui.
On va s'occuper de vous après.
Et voilà pour ce moment passé avec Michel Bougenin qui, en ce moment, joue pour cette année Molière, l'Avare, au Théâtre des Variétés, si vous êtes de passage à la capitale. Et maintenant, on termine en cette journée dite de la gentillesse par quelqu'un qui ne l'a pas été énormément, en tout cas avec Thomas Pesquet. On écoute la chanson de Frédéric Fromet.
Alors attention, double actu, l'anniversaire de Jean-Jacques Goldman et les dernières révélations scientifiques de Thomas Pesquet à bord de l'ISS, à savoir une vidéo pour montrer ce qu'il bouffe. Il filme un bout de pain dans la station pour attirer les gogos, les pigeons. Il filme un sachet de bœuf bourguignon. Il aurait dû bosser pour Marmiton. Carottes au cumin, pommes de terre au thym, tomates artichauts, crêpes et risotto, effilochés de volaille, escargot à l'ail. Le mec faut rien de son séjour à part surveiller le four. Je raille et je bouffe, mais y a pas que la bouffe. Il se fait tellement chier qu'il prend cliché sur cliché, des centaines de photos de la terre vue d'en haut. Quand c'est pas un selfie, car il est très content de lui, il publie à toute heure sur son compte Twitter, sur Facebook, Instagram, il est pire qu'un spam. Il est partout à bloc, sur Snapchat et TikTok. Il est moins un astronaute qu'un putain d'internaute. Il fait son malin dans la station, il prend la pause dans sa combinaison, en lisant Marguerite Duras pour une dictée géante depuis l'espace. Il accomplit sa mission spatiale juste pour raconter sa vie qu'il étale. Il trouve même le temps de bavarder en visio avec Kylian Mbappé. Il se fait des copains depuis la station, y'a que pour papoter qu'il est champion. Cosmos, il a fait Roland Garros, plus rien nous étonne, il a fait le téléphone sonne. Comme il adore les flatteries, il rêve d'aller chez Nagui, mais voit pas ce qu'il pourrait faire ici dans par Jupiter. Soyons moins rigoristes avec notre touriste, notre gendre idéal, intersidéral. Les fachos ont la rage contre les gens du voyage, pour une fois qu'il y en a un que la majorité aime bien. N'empêche qu'il fout rien dans la station, ça fait vraiment cher la récréation.
Merci. Frédéric Frommé.
Et donc, on n'invitera jamais Thomas Pesquet. C'est réglé. Et puis, Jean-Jacques Goldman non plus. Et comme ça, ça permet d'éclaircir un petit peu les invités potentiels.
Ça fait de la place, hein.
Et voilà, la voix langoureuse de Frédéric Frommé annonce toujours la fin des florilèges. Et donc, je vous donne le programme de demain. C'est encore moi qui ai choisi. Et à mon avis, quand vous allez entendre les invités, ça va pas vous surprendre énormément. Demain, on se replonge dans deux émissions de 2015. L'une avec Bernard Minet, un de mes chanteurs préférés. Et l'autre avec la magnifique Marie Gillin. À demain.